Voilà, voilà. Bonjour mesdames et messieurs. Merci à l'équipe Down on the Range. Mon nom est Jean-Marie Gianni. Je suis content d'être là avec vous. Bonjour André Moulumba. Il est 7h04 à Ottawa, 5h04 à Calgary.
Oui, bonjour Jean-Marie Gianni. Il est 5h04 à Calgary, oui. Et après, c'est que c'est réveillé tôt pour l'émission africaine, voilà.
Tout à fait. Alors, nous sommes contents d'être là encore ce samedi matin. Aujourd'hui, c'est samedi le 26 avril, il faut le rappeler. Et on commence avec, rapidement, les 5 minutes. Les 5 minutes africaines de l'émission africaine.
Bon, les 5 minutes de l'histoire africaine, c'est juste pour donner un peu des grands titres de la presse africaine. Il y a ce qu'il faut dire, la revue de la presse qui va venir après. Mais il faut dire qu'au début, nous allons parcourir toute la presse africaine, y compris la presse européenne, pour savoir ce que les journaux ont écrit au sujet de l'Afrique. Bon, on se réveille tôt, alors c'est ça. On va revenir avec tous ces titres-là quand c'est le moment de la revue de la presse africaine.
Tout à fait, André Moulumba. Et pour commencer, je pense que nous irons en France. Allez, nous irons chercher M. William Sachet, qui est l'un des co-auteurs du livre Noir Canada, qui est un livre qui a fait beaucoup couler d'encre de salive. On va le chercher à Paris, en France. Et nous aurons ici en studio, nous aurons, une fois n'est pas coutume, nous aurons beaucoup d'invités. Monsieur André Clermont et Madame Valérie Taillefer, et aussi peut-être Monsieur François Thériault, qui viendront nous parler de d'un organisme Jeune Espoir, qui sont des jeunes qui vont se dédier, qui sont dans l'humanitaire, qui vont en Afrique apporter leur coup de main, leur savoir aux Africains, aux Africaines, aux gens nécessités en Lumumba, en Afrique. Et donc, ils organisent un événement le vendredi 2 mai, ici dans la région de la capitale. Et donc, on en parlera avec eux quand ils seront ici en studio avec nous en Lumumba.
Oui, c'est ça, Jean-Marie Véné. C'est une bonne émission qui sera là, dans les titres ce matin qui apparaissent dans la presse africaine, je pense. Il y a Midi Madagascar qui estime que les gouvernements des pays africains sont en difficulté au sujet de la crise de nourriture. Et puis il y a par exemple l'observateur de Palka revient aussi sur l'envolée des prix alimentaires. Donc même titre avec Midi Madagascar. Il y a encore le même observateur de Palka qui revient avec un titre sur la crise au Zimbabwe. Il y a par exemple au Maroc un autre journal qui revient avec les problèmes du Sahara occidental. Donc il y a trop de titres dans la presse africaine, mais la grande revue de la presse va revenir après que tu aies reçu tous tes invités. Et c'est justement là, on va surtout être basé sur la presse allemande qui parle surtout de l'arrivée de Paul Kagame en Allemagne et les réactions que son arrivée soulève au niveau même de l'Europe.
Et tout à fait, André Moulumba. Donc, voilà ce qui est ça, l'Afrique en 5 minutes. C'est facile, c'est pas facile de faire l'Afrique en 5 minutes quand même.
Bon, c'est facile, mais il y a tellement de papiers que pour le diminuer, ça pose des problèmes. Mais puis, c'est ça, il faut être branché surtout, tu comprends ce que je veux dire.
Tout à fait. Écoutez, on vous rappelle que nous sommes en direct depuis la station de Radio CHUFM. Nous avons Monsieur André Clermont. Je pense que c'est bien ça. Il est en studio avec nous, André Moulumba. Il est là. Et voilà, il vient de nous parler de l'encan silencieux et vente aux enchères pour un projet humanitaire au Bénin, qui est un pays, pour ceux qui ne savent pas, en Afrique.
Il est déjà en studio.
Il est déjà en studio ici avec nous, André Moulumba.
Il s'est réveillé tôt quand même, comme tout Africain qui se respecte.
Voilà, l'Afrique se lève tôt aussi.
Voilà, un grand bonjour de ma part depuis Calgary.
Voilà, monsieur André Clermont, si vous voulez prendre pour écouter André, vous devez avoir le casque, mais peut-être que... Ah, les étudiants qui s'en viennent. Donc, les étudiants, on t'aura plus tard, André Moulumba, avec les étudiants.
Quand les J'ai étudiants l'impression seront là. Que tu as plus de gens dans les studios ce matin.
Oui, c'est ça, André Moulumba, ça roule ici.
C'est très bien quand même.
Alors, donc nous, on te retrouve tout à l'heure. On te laisse le temps de retravailler tes documents. Et on te laisse avec cette citation, une très belle citation de Aimé Césaire. C'est une semaine qu'il est décédé, donc il disait que je ne conçois pas que l'artiste puisse rester un spectateur indifférent, refusant de prendre une opinion. Être engagé, cela signifie pour l'artiste être inséré dans son contexte social, être la chair du peuple, vivre les problèmes de son pays avec intensité et en rendre témoignage. C'est une citation d'Aimé Césaire, extrait de Moi, la Minère. Voilà, si ça vous intéresse. 7h10, nous sommes en direct depuis les zones de CHUFM. André Blumba, on se retrouve tout à l'heure.
Voilà, 10 minutes après l'introduction de l'émission africaine, les temps fixes jamais rejeunés, on vous attend.
Voilà.
Merci. Voilà, Gultines, nous sommes en direct. Voilà, nous sommes avec Monsieur William Sachet. Monsieur William Sachet, bienvenue à l'émission africaine Afrique Plus. Comment vous allez, William?
Ça va très bien, Monsieur Jean-Marie.
Allez, vous êtes à Paris. Dites-nous voir comment quel temps il fait. C'est l'après-midi à Paris.
Oui, alors là, c'est un peu l'après-midi et il fait un temps magnifique.
Allez, dites-nous, vous êtes le co-auteur du livre Noir Canada avec Monsieur Alain Denot, oui? Alain Deneau
et Delphine Abadi.
Voilà, et vous êtes, c'est un collectif, vous êtes autour de Ressources Afrique. Parlez-nous un peu, voir, oui, parlez-nous un peu de ce collectif Ressources Afrique d'entrée de jeu.
D'accord. Alors, si vous voulez, le collectif Ressources Afrique, c'est un collectif d'auteurs qui rassemble pour la plupart des personnalités du milieu universitaire. Alors, le collectif Ressources Afrique s'est formé il y a approximativement 2 ans et nous nous sommes posé la question quels étaient les intérêts canadiens présents en Afrique. Alors, bien évidemment, nous nous sommes intéressés aux activités des sociétés privées présentes sur le continent africain, mais bien évidemment, nous nous sommes aussi attachés à décrire et analyser l'éventuel soutien du gouvernement dont bénéficiaient les sociétés en question. Alors, notre méthode a consisté à codifier des données concernant les intérêts canadiens. Mmh. Et notre démarche est universitaire. Nous avons consulté un nombre considérable de sources, toutes crédibles, référencées et dont la réputation n'est en général plus à faire.
Voilà, dites-nous, et vous avez, entre autres sources, vous avez consulté les sources de l'ONU, les sources comme des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, pour ne citer que cela.
Oui, c'est ça même, des rapports d'organisations non gouvernementales, civiles internationales, parce que comme vous le mentionnez, Amnesty International, Global Witness, Probe International, ou encore des organisations plus spécialisées sur l'Afrique, comme le Broad Institute. Mais nous avons aussi consulté un grand nombre de rapports parlementaires, par exemple le rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources en République démocratique du Congo, ou encore les travaux de la Commission des affaires étrangères, de la Chambre des représentants à Washington, ou bien encore les travaux de la Commission nationale d'enquête sur les entreprises minières du député Christophe Ndoula au Congo. On a évidemment consulté aussi des livres, des journalistes, des africanistes, de la presse internationale. Enfin, pour vous dire, un rapport existait déjà virtuellement sur le rôle des sociétés canadiennes en Afrique. Il existait déjà virtuellement. Il suffisait de rassembler les sources et d'en faire un ouvrage, quoi, simplement. Mm-hmm. Alors, je voudrais juste ajouter que nous ne faisons pas une profession de foi aveugle en toutes ces sources, bien évidemment. Mais c'est la somme en fait des informations que nous n'endossons pas tout au cas par cas, mais c'est la somme des informations que nous avons relevées qui est inquiétante.
Tout à fait. Et dites-moi, dans une entrevue qui sera publiée au mois de septembre 2008 dans le magazine ou la revue Altérité, Alain Deneau dit ceci, je cite, il nous a d'ailleurs ulcéré durant la réalisation de ce travail de voir quelques apôtres canadiens de la gouvernance organiser cycliquement des conférences et colloques globalement stériles, faisant défiler à tour de rôle des intervenants hétérogènes sur l'Afrique, lobby, minier, fondation privée suspecte. Parlementaires à la langue de bois bien pendus, universitaires subventionnés par l'État fédéral, ONG de tout poil, pour ne citer que ça, sans plus et il continue en disant que durant des heures et les propos les plus contradictoires qui soient sans plus sans critique en fait et il continue je termine ma citation. Nous avons voulu démontrer qu'il y avait lieu de procéder tout autrement. Est-ce que c'était vous avez voulu vraiment faire autrement la recherche en parlant de Noir Canada?
C'est ça. Ben, si vous voulez, le sous-titre du livre, Sillage, corruption et criminalité en Afrique. Alors rien qu'avec ce sous-titre, nous posons en fait en adversaire de ce type de discours, toute cette caillerie sémantique qui existe autour de la gouvernance, mais il n'y a pas que la gouvernance, il y a la sécurité humaine, les normes d'éthique, enfin, si vous voulez, c'est tout un tas de concepts qui sont subventionnés de façon abusive, comme vous l'avez mentionné, à la fois par des instances comme la Banque mondiale ou l'Agence canadienne de développement international, ou même encore le CRSH au niveau universitaire. Mm-hmm. Donc nous, ce que nous disons, c'est que des termes comme la gouvernance ce sont des termes qui sapent en quelque sorte la conscience historique, parce que ce sont des termes qui n'ont pas d'histoire. Et au sein de la gouvernance, si vous voulez, qui est un terme quand même éthéré, un terme mou, qui fait partie d'une espèce de nouvelle langue institutionnelle, là, qui est un discours plus ou moins diplomatique. Et en fait, quand les gens reprennent ce discours, ils se rendent compte de naïveté, parce que avec des termes comme la gouvernance, on ne voit pas, on n'arrive pas à qualifier en fait les abus observés sur le continent africain. Mmh. Et donc bon, avec ce barbarisme, si vous voulez, on invoque si vous voulez une forme de dénégociation qui convie des acteurs différents autour d'une question en particulier, et on discute et on est censé aboutir à un consensus. Mmh. Un consensus dans lequel les experts, la parole des experts est érigée, si vous voulez, au rang de politique. C'est-à-dire que la position de l'expert est hypertrophiée et l'expert est porteur au sein de la gouvernance d'un discours absolu sur les décisions. Nous inscrivons en faux contre cette façon de procéder.
Alors dites-nous, pourquoi l'apparition de ce livre, de cet ouvrage a créé problème? Apparemment, vous avez été accusé le terme canadien, je suis en train de le chercher, vous avez fait l'apparition du livre a fait état d'une poursuite Bayon, en fait, le terme québécois.
Oui, c'est-à-dire que pas exactement une poursuite Bayon, parce que nous avons reçu une menace.
Une menace, ok, il faut, oui.
Que nous voulons le poser, parce que, ce qui se passe, si vous voulez, pour vous situer chronologiquement la situation,
oui.
La veille de notre lancement, du lancement de notre prix qui devait avoir lieu le vendredi 11 avril, les trois auteurs principaux, donc Alain Deneau, qui est l'animateur du collectif Ressources Afrique, hein, qui est l'auteur principal du livre, Delphine Abadi et moi-même, ainsi que la maison d'édition, nous avons tous reçu, donc la veille du lancement du livre, une lettre de mise en demeure qui nous enjoignait de ne pas diffuser des propos diffamatoires concernant la société en question, qui est la société aurifère Barrick Gold, le numéro 1 mondial de l'or.
De l'or, oui.
Et la lettre, qui était écrite sur un ton très intimidant, nous menace de poursuite si nous procédons à la divulgation de propos qu'elle juge diffamatoires. Alors, si vous voulez, c'est un peu extraordinaire la façon dont ça passe, parce que d'une part, la société n'a pas lu le livre au moment où elle nous a envoyé cette lettre de mise en demeure. Elle l'a envoyé sur la foi des renseignements fournis par le site internet de la maison d'édition,
mm-hmm.
Qui est la petite maison d'édition éco-société à Montréal.
Oui.
Et une autre chose aussi qui est extraordinaire, c'est le nombre de destinataires de cette lettre, parce que ce n'est pas la maison d'édition en tant que personne morale qui a été
visée,
mais c'est un très grand nombre de personnes qui font partie du conseil d'administration de la maison d'édition. Mmh. Alors évidemment, nous, on pense que ceci s'apparente à une menace de poursuite Bayon, parce que c'est une menace de poursuite.
Il y a aussi un fait marquant dans le livre, vous faites des révélations que certaines sociétés financent aussi des seigneurs de guerre. Par exemple, en République démocratique du Congo.
Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît.
Je dirais que vous faites des révélations dans le livre que certaines de ces sociétés financent pour leur protection les seigneurs de guerre.
Oui, si vous voulez, dans le cas de la République démocratique du Congo, qui est quand même un cas particulier aussi en Afrique, parce que on a affaire à une guerre, un conflit larvé, là, qui dure depuis une décennie maintenant. Eh bien, nous avons observé, à la lumière des sources que nous avons pu rassembler,
mm-hmm.
que c'est vrai, un grand nombre de sociétés canadiennes étaient présentes sur le terrain. Et d'une part, de par leur présence, elle se trouvait à attiser les conflits d'une façon notoire, mais il est vrai qu'également, des sources rapportent que des sociétés auraient financé directement les seigneurs de guerre en présence afin de sécuriser leur site, leur gisement.
Voilà. Et dites-nous, dans le livre, vous parlez de ces sociétés et vous avez ce problème avec le bâillonnement. Alors, est-ce que c'est un test pour la démocratie canadienne et la liberté d'expression même, avoir eu le courage de publier ce livre?
Nous pensons franchement que ceci est effectivement un test pour la démocratie canadienne, d'autant plus que nous estimons que nous sommes dans notre bon droit.
Oui.
Dans la mesure où, dans notre livre, chacune des allégations que nous rapportons est issue de sources publiques qui sont disponibles par tout un chacun, hein, qui se mettent en quête des sources en question. Et nous ne faisons que relayer ces allégations. Et nous n'oublions pas, quand il y a eu des communiqués de la part des sociétés incriminées, nous n'oublions pas de mentionner quel a été leur point de vue officiel sur la question. Donc, si vous voulez, nous, ce que nous réclamons, par exemple, dans le cas de la société Barrick Gold et le cas de ce qui s'est passé à Bunyanhulu en Tanzanie, ou ce qui s'est peut-être passé, en tout cas on ne sait pas ce qu'on veut, ce qu'on réclame, c'est qu'une commission internationale faisant, si vous voulez, l'unanimité de tous les partis de tous les partis représentés, eh bien soit mise sur pied, soit mise en place, et une commission rassemblant des personnalités au-delà de tout soupçon qui puisse faire la lumière sur ce genre d'accusations d'abus graves commis par les sociétés canadiennes en Afrique.
Voilà, donc
alors voilà, ça pose un sérieux problème de démocratie, parce que la société Barrick Gold, en nous menaçant via cette lettre de mise en demeure, eh bien se pose aussi en censeur d'une certaine façon, parce que si nous avions répondu, si vous voulez, à cette intimidation en ne lançant pas le livre, eh bien, c'est une forme de censure, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un test très fort pour la démocratie canadienne, étant donné le sérieux du travail que nous estimons avoir accompli.
Voilà, en terminant, une dernière question. Est-ce que vous êtes revenu sur la responsabilité des Africains eux-mêmes par rapport à tout ce qui se passe, parce que ça se passe quand même en terre africaine? Alors, est-ce que vous êtes revenu, est-ce que vous avez touché sur ce point-là, la responsabilité des Africains eux-mêmes de voir se vider leurs ressources et les ressources humaines et matérielles, en fait? Est-ce que vous revenez...
Bien entendu. Oui, il n'est pas question d'évacuer, si vous voulez, la responsabilité d'un certain nombre, notamment de dirigeants africains, qui bien évidemment se font corrompre largement par des intérêts étrangers. Ouais. Et c'est sûr que effectivement on ne l'évacue pas non plus, si vous voulez, à la question géopolitique, dans le sens où c'est vrai que, particulièrement dans l'Afrique des Grands Lacs, on se trouve aux prises avec un contexte géopolitique qui est très complexe. Là, la guerre du Congo a été déclenchée à la suite du génocide rwandais. Donc, si vous voulez, on a des acteurs nationaux tels que l'Ouganda, le Rwanda, ou encore l'Angola, ou le Zimbabwe, qui ont pris part ou la Namibie, ou qui ont pris part au conflit congolais. Et bien évidemment, l'action canadienne n'a pas été unique.
Voilà.
Mais si vous voulez, ce que nous dénonçons, c'est que l'action des sociétés est quasi systématiquement évacuée quand il s'agit d'aborder la question d'un conflit comme le conflit congolais.
Voilà. En tout temps, vous remerciant, nous voulons vous poser trois petites questions qui sont pour nous. C'est vous qui le dites, c'est un volet de notre émission. Alors, la première question est la suivante. Selon vous, quelles sont les causes du retard de l'Afrique? Une ou deux?
Pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Quelles sont les...
Quelles sont les causes du retard de l'Afrique?
Ah, les causes du retard de l'Afrique.
Oui, une ou deux.
Une ou deux.
Oui.
Écoutez, il apparaît évident que la cause principale, c'est le retard pris. Au cours de retard, si on peut parler de retard, hein, mais c'est des décennies et des décennies de pillage. Enfin, il faut pas se voiler la face, quoi. Des décennies d'une part de colonisation, et suite à la décolonisation, qui en fait en a pas été une dans les faits, qui n'avait juste été qu'un transfert vers une colonisation qui était économique.
Voilà, la
le retard africain est en grande partie lié à ce pillage des ressources naturelles, des matières premières.
La deuxième question est la suivante.
Au prix du bien public africain.
La deuxième question, les intellectuels africains, d'après vous, doivent-ils vivre en Afrique ou en dehors de l'Afrique?
À mon sens, les intellectuels africains doivent vivre là où ils veulent. Là où ils sentent qu'ils peuvent apporter pour le bien public de leur pays ou de leur continent. Mais c'est sûr que la fuite des cerveaux, si c'est ça ce à quoi vous faites référence, est quelque chose de très dramatique en fait pour des nations qui en fait voient leurs forces vives partir à l'étranger et servir finalement des intérêts qui ne font qu'entretenir la domination d'un grand nombre de pays africains vis-à-vis des pays occidentaux.
La troisième question et la dernière, quelle solution préconisez-vous pour les changements, que les changements soient effectifs en Afrique? Une ou deux?
Des solutions. Nous ne nous posons pas en tant qu'auteur d'un ouvrage comme Noir Canada, nous ne nous posons pas en porteur de solutions. Et d'ailleurs, ce que nous voulons, c'est rendre, si vous voulez, la politique africaine aux Africains. C'est-à-dire que pour nous, il y a à la fois une occupation physique sur le terrain. Hein, il y a une occupation des gisements, une occupation des gisements pétroliers, miniers, tout ce que vous voulez. Hein, mais il y a aussi une occupation politique. Et cette occupation politique passe par exemple par des concepts comme la gouvernance et par bien d'autres encore. Et donc ce que nous préconisons, c'est une récupération par les Africains de la politique africaine pour définir des politiques qui s'affranchissent de la domination et qui sachent aussi de la domination du Nord, qui sachent aussi la dénoncer dans des termes qui ne soient pas éthérés ou repris par une certaine novlangue institutionnelle occidentale.
Voilà, écoutez, monsieur William Sachet, c'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci d'avoir participé à l'émission Afrique Plus.
C'est moi qui vous remercie de nous donner la voix dans cette émission et nous sommes très contents de pouvoir partager ce travail avec les Africains de la diaspora que vous représentez, monsieur.
Et on rappelle en passant que monsieur Alain Deneau sera ici dans la région de la capitale nationale, ici à Ottawa-Gatineau, au dépanneur Sylvestre. Ce sera le 2 mai, le vendredi 2 mai.
C'est ça même.
Et voilà, donc on aura la chance de le voir physiquement et d'avoir une entrevue avec lui.
Voilà.
Alors, c'est toute l'Afrique qui vous dit merci et bon temps à Paris, en France.
Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.
Au revoir.
L'école de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878.
Jocelyn Elinor est maintenant un agent CAM transfert. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878.
Dimanche, il faut que tout le monde vienne pour que ensemble on s'amuse parce que ça va être un show époustouflant. Donc venez, comme on le dit, avec Magic System, tout le monde aura la maladie du bouger, personne ne va s'asseoir. Salut, moi c'est Asalfo du groupe Magic System. Si tu veux pas être gaou, écoute la radio de l'Université d'Ottawa. C'est ça qui est la vérité.
Le nombre de demandes d'immigration en attente, de plus en plus grand depuis trop longtemps. Des centaines de milliers de personnes attendent, souvent pendant des années. Et par conséquent, des familles en souffrent et les entreprises qui souhaitent embaucher des travailleurs et prendre de l'expansion elles aussi. C'est pour cela que le gouvernement du Canada propose des mesures pour réduire le temps d'attente. Pour plus d'infos, composez le 1-800-AU-CANADA ou consultez le cic.gc.ca.
Un message du gouvernement du Canada.
Voilà, vous écoutez, bienvenue à l'émission Afrique Plus. Nous sommes en direct depuis les studios de la radio au CHUFM. Voilà, j'ai avec moi Monsieur André Clermont.
Bonjour.
Bonjour. Et Madame Valérie Telfer.
Oui, bonjour. C'est ça, bonjour.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Voilà, donc vous représentez Monsieur André Clermont, vous êtes le chargé de projet dans le cadre de Jeune Espoir et le validé de la semaine prochaine, le 2 mai, vous aurez des encans silencieux et des ventes aux enchères pour un projet humanitaire pour qui a deux volets en fait. Pour une partie de ce projet-là, si ça servirait à aider les gens au Bénin ou en Afrique de l'Ouest, et une partie de ces fonds qui seront collectés serviront aussi à pour, je peux lire dans le communiqué de presse, à la reconstruction d'une paroisse ou d'une église, ou je peux voir là l'église Saint-Marie.
Non, on est en partenariat avec l'église Sainte-Marie de Navan.
Voilà, OK.
Mais les argents qui seront amassés lors de l'encan la semaine prochaine iront vers la construction d'un centre médical dans la communauté de Covey au Bénin.
Au Bénin, oui.
Donc, on est partenaire avec eux. Les argents de l'encan sont divisés en deux.
OK.
Une partie iront à l'église locale ici et une partie pour notre projet au Bénin.
Alors, dites-nous voir Jeune Espoir. C'est une association. Parlez-nous voir de cette association pour que les gens ils sachent exactement c'est quoi un peu et c'est ce que vous faites, dans quoi vous êtes impliqués, vous autres.
Jeune Espoir, plus ou moins commencé en 1995, sous le nom de Garneau en Jamaïque, une école secondaire, les gens allaient en Jamaïque faire du travail humanitaire. C'est transformé en Jeune Espoir Jamaïque. Et finalement, cet été est devenu Jeune Espoir. À partir de 2004, on a commencé à aller en Afrique, donc au Bénin particulièrement. Et puis, on continue nos projets en Jamaïque aussi. Voilà.
Allez-y. Donc vous continuez, vous avez des projets parallèles en Jamaïque, au Bénin, et comme ça vous êtes dans l'humanitaire en fait. Donc vous envoyez des jeunes comme Valérie, j'imagine, qui vont là-bas. Et quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez sur le terrain, Valérie?
Entre autres, nous autres, on va participer à différents projets. Au niveau de Jeune Espoir Afrique, on va surtout travailler dans un camp d'été à Covey, dans le même petit village. Et puis, on va travailler dans un dispensaire, on va travailler dans une clinique de maternité, et ainsi de suite. C'est juste différents projets. Puis nous, entre autres, on se lance plus dans ce qu'on est intéressé. Donc, c'est ça. Puis, cette année, je pense, on va faire la construction, justement, d'une clinique.
D'une clinique, oui.
Donc, c'est ça. On va aussi participer à ça. On est vraiment sur le champ, en train de faire le travail.
De travailler vraiment avec monsieur et madame tout le monde dans la communauté dans laquelle vous serez impliqué, en fait.
Oui, c'est ça.
Monsieur... André Clermont, dites-moi, est-ce que c'est des partenariats que vous envoyez chaque année ou chaque deux ans ou dites-moi comment ça se passe un peu pour qui êtes chargé de projet.
En 2004, on a établi des contacts avec un partenaire là-bas au Bénin, la Fraternité internationale des prisonniers au Bénin. Et puis, donc leur mandat, c'est d'aider aux prisonniers, surtout pour leur formation, leur aider à passer à survivre, si tu veux, en prison, mentalement surtout, et puis ensuite les préparer pour la sortie. Et donc, à travers leurs différentes œuvres, nous les appuyons, rendus là-bas. Donc, c'est sûr que en même temps que les autres projets qu'on fait, qui aident à la fraternité, nous allons aussi dans les prisons. Et puis, nous allons pour dispenser de produits médicaux, d'aider à... nettoyer peut-être un peu à l'intérieur de les prisons.
Oui, parce que la prison là-bas, il faut rappeler que c'est pas c'est pas
les conditions
sont beaucoup plus rough, si vous permettez l'expression, un peu plus rudimentaire, c'est un peu plus difficile, c'est vrai.
Ouais.
Donc c'est ça, donc depuis 2004 on est partenaire avec eux, on y va à chaque deux ans. Mm-hmm. On est allé donc en retournant en 2006 et maintenant on retourne l'été 2008.
Et cet été 2008, vous allez avec combien de jeunes vous allez envoyer cette fois-ci?
Nous sommes 10 qui sont en grande partie...
C'est une grosse équipe, là.
Oui, donc la majorité vient de l'Université d'Ottawa, ce sont des étudiants ici. Il y en a d'autres qui vont au collège, cité collégiale, donc qui sont maintenant, qui ont gradué d'ici, qui sont maintenant dans le domaine du travail. Donc ça varie entre à peu près 18 et 25 ans.
Mm-hmm.
Ensuite, il y a des organisateurs un petit peu plus vieux.
Mais oui, ça prend les deux.
C'est ça, qui appuie, qui organise et puis qui appuie le projet. Donc on est une équipe de 16 personnes qui allons.
Ah, c'est une grosse équipe, ça. Et puis donc, les gens seront un peu partout dans la région de Covey ou un peu partout dans le pays?
Nous allons, on commence toujours par Cotonou.
OK.
Et puis, donc, on fait un peu de tourisme aussi pour se réadapter au niveau du changement d'heure,
décalage
horaire.
Oui, c'est vrai que...
Donc, on visite des endroits comme Ganvier, Ouida,
mm-hmm.
Porto Novo. Donc, oui. Et puis ensuite, on entame le travail. Le travail se fait dans certaines prisons, différentes villes, soit Cotonou, à Ouida, à Beaumé.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, les deux semaines à Covey. Mm-hmm. Donc Valérie est déjà allée en 2004. Je l'ai laissée parler de son expérience, puis elle retourne maintenant en 2008.
Alors, raconte-nous un peu voir comment, quand la première fois que tu es allée, Valérie, comment est-ce que tu as trouvé ça? Partage ça avec nous.
C'est tellement excitant, vraiment. Là. Quand je suis arrivée, c'est ça, on est resté à Cotonou, puis on a fait la visite de la région et différentes places. C'est juste, c'est tellement une belle expérience, puis comme c'est vraiment pour moi ce qui est le plus ressorti. Ça fait déjà 4 ans là, depuis la dernière fois que je suis allée, puis ce qui est vraiment ressorti, c'est juste l'échange culturel.
Oui.
Tu sais, t'arrives là-bas, puis t'en apprends tellement que je me sentais quasiment comme si eux, je recevais plus que j'en donnais. Là. J'ai juste tellement appris à propos de la culture, à propos de leur mode de vie, à propos de... juste tout le fonctionnement en Afrique. On a appris à propos de les esclaves, le voudou, toutes les choses qui se rattachent au Bénin.
La danse,
la bouffe. Ah oui, c'était super. On a dégusté du rat. C'était merveilleux. Puis on a eu la chance de vraiment se créer des vraiment beaux liens là-bas. Puis c'est ce qui est le plus ressorti, juste les liens interpersonnels, tu sais, avec les autres.
Mm-hmm. Et si vous permettez, on fait juste une petite pause musicale.
Oui.
Et on revient avec la continuité, la suite de l'entrevue.
C'est bon.
Voilà, il est 7h43, vous écoutez Afrique Plus, nous sommes à CHU FM. Nous avons avec nous André Clermont, qui est le chargé de projet à Jeune Espoir, et Valérie Taillefer, qui est une participante à ce projet-là. Et vous représentez un groupe de 16 personnes qui vont partir cet été en Afrique de l'Ouest, au Bénin, en particulier dans la localité de Covey. Et vous allez vous impliquer dans les communautés là-bas, vous allez travailler avec les gens là-bas. Et aussi, c'est à ce titre-là, pour préparer tout ça, que vous organisez le vendredi, le 2 mai, d'ici dans la région. Parlez-nous un peu de l'événement que vous organisez.
Eh bien, ça se passe à Navin, donc une communauté juste un peu à l'est d'Ottawa, en campagne. Au centre de curling, nous avons un encamp. Un encamp qui, c'est notre troisième encamp annuel, qui sert à amasser des fonds. L'encamp commence à 18h, parce que les gens peuvent circuler et voir les objets qui sont à vendre. Qui sont mises à l'encan, donc soit de façon silencieuse, ils peuvent mettre des mises. Et ensuite, l'encan, la vente aux enchères elle-même, un autre ensemble d'objets et de services et tout ça qui seront aux enchères. Donc, toutes sortes d'objets, par exemple, des choses qui viennent de l'Afrique, mais aussi des certificats cadeaux, de passer des nuits à des hôtels, passer le train, une soirée, un train de vapeur de Wakefield, des certificats cadeaux pour des spas, voyage à Toronto, et tout ça, il y a plein de choses pour tout le monde dans le fond. Et puis, cet argent-là, évidemment, sera divisé en deux, comme j'ai dit tantôt.
En deux tantôt, oui.
Et
oui.
Puis, la moitié de l'argent irait vers la construction de notre centre médical à Covey.
Et le centre médical, quand vous l'avez visualisé, c'est pendant votre période cet été au Bénin, à Covey, qu'il sera réalisé ou...
On a déjà commencé.
Ah, ça a déjà commencé.
Oui, donc en 2006, lorsqu'on est allé, on a mis la fondation.
Oui.
Et ensuite, on avait laissé de l'argent. L'an passé, on n'est pas allé, mais on a envoyé quand même 5 000 $ canadiens. Et puis donc, pas des CFA.
Mais oui, parce que
Et puis là, ils ont continué avec ces argents. Et puis là, on a vu des photos. Les murs sont montés. Et donc, nous continuons finalement les travaux avec eux. Donc c'est pas la main d'œuvre qui manque là-bas, et tout ça c'est entre autres l'argent.
Et c'est pour rappeler à ceux qui nous écoutent là que c'est vraiment impératif de si quelqu'un a 5 dollars ou quelque chose ou n'importe quoi de contribuer de pouvoir donner ça et c'est pour quelque chose qui a déjà commencé, qui est déjà en train de fonctionner et que les argents seront entre de bonnes mains en fait.
Définitivement. C'est sûr qu'ils peuvent pas venir à l'encan. C'est sûr qu'on a un site web, www.jeuneespoir.org. Et puis là, il y a toutes les photos des voyages précédents et aussi des façons de nous contacter pour nous donner de l'argent. Et aussi, maintenant, on est rendu notre statut d'organisme de bienfaisance. Donc, nous pouvons donner des reçus d'impôts pour les dons de 20 $ et plus. Et puis, enfin, l'encan, c'est une des grosses cueillettes de fonds, mais on a aussi une vente de garage qui va se passer au mois de juin et finalement d'autres choses qui se passent. Donc, il y a d'autres façons de contribuer. Aussi, les dons d'objets, on ramasse des ordinateurs parce qu'on fait un parc informatique dans certaines des prisons et aussi on enseigne l'informatique dans les communautés. Nous apportons également des objets médicaux, des objets scolaires. Puis donc, les gens aussi peuvent contribuer en faisant des dons de certains objets. Et puis, finalement, la participation de nos jeunes les enrichit beaucoup. Puis je vais laisser peut-être Valérie parler de l'enrichissement. Qu'est-ce que ça donne de vivre un projet comme ça lorsqu'on revient?
Allô? Voilà. Voilà. Oui, André Mlumba, je sais que tu es en communication avec nous, tu es en direct avec nous depuis Calgary. Tu vas écouter la conversation que nous avons ici parce que c'est les jeunes. Nous avons le chef de projet de l'association Jeune Espoir. Ils vont partir en Afrique de l'Ouest, au Bénin, et donc pour construire des dispensaires. Donc, ils sont déjà en partenariat avec les gens de la localité là-bas. Donc, ils vont partir. C'est un groupe de 16 personnes qui ira cet été là-bas. Donc, on les reçoit à ce titre-là à l'émission africaine.
Voilà.
C'est juste pour te mettre dans le contexte parce que on t'a au téléphone.
C'est ça, Jérémy.
Alors, donc, on va écouter Valérie qui va nous dire un peu comment est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente de vivre un projet comme celui-là.
Ben, moi, je dirais que l'avoir vécu, quand tu reviens, c'est vraiment, ça remet toutes tes valeurs en question. Vraiment, c'est vraiment, tu sais, tu changes, veux pas, là, n'importe qui voyage, on le sait, on change en voyageant.
Qu'est-ce qui change? Dis-moi, c'est quoi?
C'est au niveau des valeurs, des morales. T'sais, là, je me questionne plus sur mes biens. Est-ce que c'est nécessaire que j'aille tout ce que j'ai? T'sais? C'est vraiment, tu remets tout en question, puis on dirait que quand tu reviens, t'es plus, moi, en tout cas, j'étais plus relax, j'étais plus comme, OK, tu sais, les choses vont venir, puis il faut juste, c'est vraiment, ça te change.
Oui.
Ça te change. Et puis les gens autour de nous le voient aussi.
André Blumbatu avec nous, en direct depuis Calgary. Est-ce que tu as quelque chose une question ou quelque chose à apporter au moulin par rapport au sujet sur lequel on parle?
Oh, Jean-Marie Vianney, c'est pas combien de jeunes sur le groupe, par exemple.
Ils sont une équipe de 16 personnes, en fait. Donc, j'imagine qu'il y a une dizaine de jeunes et qui sont accompagnés des adultes pour les encadrer quand même, parce qu'il faut quand même aussi faire un suivi, un encadrement, parce que ça peut arriver qu'on est j'ai le terme anglais expectation, des attentes quand on arrive là-bas, et puis on peut être un peu déçu, donc il faut quand même que quelqu'un qui connaît un peu le terrain puisse nous rassurer que être un peu dépaysé, c'est des choses qui peuvent arriver, donc il faut un accompagnement je pense que c'est
le choc culturel,
donc c'est peut-être le rôle j'imagine des adultes qui accompagnent les jeunes.
Et il s'intéresse à quel projet de développement?
Je pense que le projet de développement, c'est le projet au côté de la médecine.
C'est une partie, finalement. On supporte nos partenaires, la Fraternité internationale des prisons au Bénin, mais à travers leurs différentes œuvres. Donc, non seulement on va dans les prisons aider, mais aussi, eux, on a organisé un camp de jour pour les enfants. Et on aide dans leur dispensaire, on aide à construire un nouveau dispensaire. Et ça remonte la réputation, finalement, de cet organisme-là, là-bas. Mm-hmm. Et ça aide aussi à supporter leur organisme. Donc, ils ont différentes activités pour supporter. Et puis, donc, on contribue de différentes façons, finalement, à les aider.
Et quand le dispensaire est bâti, on a l'édifice, est-ce qu'ils ont les médecins, ils ont des infirmières? Est-ce que vous leur apportez aussi? Il y a des membres de l'équipe qui ont la formation d'infirmiers ou docteurs qui leur donnent des petits conseils, des petits trainings ou des...
Oui, on a une qui est infirmière et on continue à chercher des gens qui peuvent y aller de façon pour une plus longue période. Donc, ça fait partie aussi de notre projet d'essayer d'aider à trouver d'autres gens qui vont poursuivre, qui vont continuer. Mm-hmm. Donc, nous, notre côté, c'est surtout le côté... construction et puis aider dans d'autres projets qui supportent la fraternité. Et ensuite, donc le deuxième volet, ce serait de trouver d'autres gens qui peuvent leur aider, soit des médecins, des infirmières, mais aussi des avocats qui seraient, parce que le côté de justice, et souvent les gens sont là pour 2 ans sans avoir de procès, donc ils ont besoin de l'aide aussi juridique. Là.
Dans les prisons, ça. Hein?
Oui, c'est ça. Ouais.
Et dites-moi, la réception là-bas, comment est-ce que les gens reçoivent quand vous arrivez, vous faites des...
Ils sont très, très, très accueillants. On est vraiment, vraiment bien accueillis. À bras ouverts.
Mm-hmm. Oui. Donc, c'est un peu c'est les cérémonies. Donc, on arrive à l'aéroport, presque le tapis rouge. On se sentait un peu gêné de la façon qu'on est accueillis. Les gens... premièrement, on pensait que les habits cérémoniaux, c'est des habits de tous les jours, finalement, on pensait que c'était des habits cérémoniaux. Et puis, on est très bien logés, très, très bien nourris. La bouffe, finalement, nous, on leur donne l'argent à aller acheter de la bouffe et finalement, ils s'occupent de tout ça.
La bouffe est excellente.
Pour nous. Et puis, pour se loger, c'est simple, mais efficace. Ouais. Et puis, donc, c'est sûr qu'on veut pas demeurer dans les hôtels, nous, là. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dépenser de l'argent.
Vous êtes vraiment impliqué dans les communautés dans lesquelles vous visitez. Vous êtes avec le monde, monsieur, madame, tout le monde chaque jour, en fait.
C'est ça. On n'est pas dans les familles, mais on est quand même, on n'est pas isolé de la communauté. Définitivement, là, le soir, donc les gens, durant le jour, toute la journée, finalement, on côtoie les gens de la communauté. Ouais. Et donc, c'est vraiment une intégration. À l'intérieur.
Alors, si vous permettez, vous restez avec nous. André Mlumba, on revient avec toi. Nous, on fait la revue de presse en quelques minutes. Et on conclut,
ça va, Jean-Marc,
et on conclut avec nos invités. Alors, la revue de la presse en Ndimoulumba. Avec nos invités qui sont là.
En fait, il y a les titres par ça dans la presse africaine tels que Joseph Kabila sur les traces de Mobutu face à la Belgique. Et ça, c'est ça vient de Congo Inter.
Mm-hmm.
Et l'opposant Tshisekedi dénonce la prédation au sommet de l'État. Ça, ça vient d'Angola Presse. Alors, Burundi chronique d'une instabilité sans fin. Ça, c'est le journal Les Pays. Alors, l'épervier plane sur Chantal Biya. Ça, c'est le Cameroun Info. Alors, tout pour moi et rien pour la patrie et la Guinée, les millions et la misère, ça c'est les zones de Guinée. Ce qui règle les problèmes, c'est la démission du président Ouad, ça c'est Ibrahim Séné qui déclare ça, ça vient du journal L'Italie.
Mm-hmm.
Alors, Togo, c'est pays qui renaît à la vie, ça, c'est l'Observateur qui vient avec un titre sur le Togo. Alors, les paris du retour peuvent être payants pour les jeunes diplômés africains, ça c'est le journal Le Monde. Mais, disons que les journaux allemands font une large place à l'origine à la visite du président Paul Kagame en Allemagne. Mais sa visite provoque beaucoup de réactions, et notamment de la part du journaliste dont je t'ai parlé, Hans Busch. Alors Hans Busch dit qu'il avait vu de ses propres yeux comment l'armée gouvernementale rwandaise avait fusillé 80 000 civils sans défense. Alors, des réfugiés hutus entassés sur un espace de la taille,
mm-hmm.
un terrain de football, donc sans nourriture ni eau. Alors, c'était le 22 avril 1995, oui. Et dans les camps de Kibeho, dans le sud du Rwanda, selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 4000 hommes et femmes avaient péri. Alors, les journalistes se lamentent et se demandent pourquoi un tel président qui dirigeait une armée ayant fait fusiller beaucoup de gens comme ça, plus de 4000 personnes, devait être reçu encore en Allemagne. Et les journalistes disent qu'il sait que les tapis rouges peuvent être roulés pour les dictateurs, mais il faut quand même distinguer les dictateurs sanguinaires et les dictateurs normaux. Voilà, il y a aussi un autre titre qui vient dans la presse allemande sur des manifestations contre la montée des prix dans le monde. Et on cite les cas des manifestations qui se sont déroulées dans les pays du Caraïbe, en Afrique et partout. Et puis il y a aussi les journaux allemands qui reviennent avec le nombre de morts au Darfour qui s'élève, selon les estimations pour le moment, à 300 000. Et les journaux allemands s'inquiètent même du silence des leaders internationaux. Alors, ils disent que si le monde est silencieux sur le Soudan, c'est parce qu'il n'y a pas de Dalai Lama au Soudan, il n'y a pas un Rail Odinga au Soudan, et il n'y a pas, par exemple, un Morgan Tsvangirai au Soudan. Mais tu sais, Jean-Marie Vianney, le Soudan n'a pas d'opposants, et des fois, c'est très difficile de faire le bruit sur ce qui se passe là-bas. Voilà un peu en bref, c'est la revue de la presse allemande et la revue de la presse africaine en général.
Voilà, donc André Boulevard, nous on revient avec nos invités ici et on conclut l'émission tous ensemble. Donc on est toi à Calgary, nous sommes à Ottawa.
C'est très bien.
Alors, monsieur André Clermont, dites-moi l'activité du 2 mai, de vendredi prochain. Donc, vous attendez tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde qui est invité.
Oui, si vous allez au site web, ça va avoir des instructions de comment se rendre, qu'est-ce qu'il y a disponible aussi, à l'encan. Donc, c'est notre plus grande levée de fonds. On aimerait vous voir là. On a beaucoup d'objets, beaucoup de services à faire. Maintenant, ça nous prend du monde pour les acheter.
Mm-hmm.
Et puis, donc, on vous invite là. Donc, 2 mai, à partir de 18h, à Navin, au centre de curling, il va y avoir des pancartes pour se diriger.
Mm-hmm.
Mais sur le site web, à jeunesport.org, il va y avoir des détails aussi sur une carte comment se rendre et aussi une liste d'objets de disponibles. Donc, on invite vraiment tout le monde et de venir nous voir.
Mm-hmm. Et Valérie, vous direz en Afrique, pour combien de temps cette fois-ci vous aurez pour...
pour 21 mois à peu près.
Un mois à peu près, oui.
Ouais.
OK. Écoutez, vous êtes... Nous sommes contents de faire affaire, de travailler avec vous autres, et d'être venus, d'être passés nous rendre visite, et ça nous fait plaisir. Et transmettez à nos frères d'Afrique là-bas nos salutations quand vous les verrez. Et continuez à faire le bon travail. Et chaque fois que vous avez envie de travailler avec nous autres, vous êtes les portes de notre émission vous sont ouvertes.
Merci beaucoup pour vos invitations.
Oui, et
je profite de l'occasion pour remercier Madame Geneviève Allard, en fait, qui a tout organisé et fait à ce qu'on soit là, en train de nous parler. Donc, ça nous fait plaisir. Et nous, on va continuer à battre le tam-tam, quoi, comme on dit en africain.
Oui.
D'accord.
Alors, écoutez, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou quelque chose à dire. Je vous donne 30 secondes, chacune.
Quelque chose à dire
Sur votre projet, sur l'encan silencieux ou sur l'Afrique.
Ben, juste encore une fois, on espère vous voir à l'encan, puis venez en grand nombre. Excusez, je perds ma voix.
Ça va.
Et puis, j'aimerais vous remercier pour nous avoir accueillis. Je me suis bien amusée.
Moi, je voulais juste peut-être finir avec une réflexion. Si on veut changer le monde, il faut agir.
Voilà. Voilà. Écoutez, c'est toute l'Afrique à Ottawa, comme on aime bien dire, et qui vous remercie d'être passé à l'émission Afrique Plus.
Merci.
Donc,
beaucoup.
Donc, c'était Monsieur André Clermont qui est chargé de projet et Valérie TFR qui est une participante. Ils iront dans le groupe, un groupe de 16 personnes qui iront en Afrique pour plus d'un mois peut-être, et pour apporter leur aide et leur connaissance là-bas. Donc, pour dire que la coopération, ça se fait comme ça aussi, et il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont encore imbus de bonne volonté, et il faut supporter ça, il faut encourager ça. L'Afrique vous dit merci.
Merci beaucoup.
Alors, M. Moulumba, on revient à vous, oui, à Calgary. Alors, le mot de la fin pour la presse.
Le mot de la fin. Il y a 43 minutes, au Zimbabwe, l'opposition affirme que sa victoire est confirmée aux législatives. Alors, à la suite, il nous faut comptage. Je pense qu'avec ça, on termine l'émission africaine et on donne rendez-vous aux Africains la semaine prochaine.
Parfait. Allez, écoutez, si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, écrivez-nous à africeplus1 @commercialrogers.com, et puis allez, nous, on va faire le maximum pour nous améliorer pour vous, mesdames et messieurs. On vous laisse en compagnie de Mike Mucella à l'émission Ici l'Afrique sur les ondes de CHOFM.